Midi et demi, mets le poste. C'est l'heure de vue de l'intérieur.
Silence, on tourne.
Vue de l'intérieur.
Une émission qui écoute les images parlées.
Vue de l'intérieur.
Vous êtes reporter photographe, journaliste, alors assumez-en les conséquences.
Le 3 mai dernier, dans l'enceinte de l'école très supérieure de Subdeco, Rouen, un homme sué et pédalé. Il pédalait sur un vélo immobile devant un écran vidéo et au son d'une musique de foire mixée à des bribes de texte qu'il avait lui-même écrit. Mise en scène absurde, irréelle, qui laissait l'assistance Pantois, amusée, interloquée, songeuse, soucieuse. Pantois, amusée, interloquée, songeuse, soucieuse, oui, il y avait de quoi en voyant ce bonhomme en tenue de cycliste sur sa drôle de machine qui, quelques minutes plus tôt, dans une tenue très chic cette fois-ci, parlait de la sortie de son nouveau livre intitulé « Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques ». Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques, titre énigmatique, peut-être. Nous en discuterons avec le bonhomme en question, alias Yann Kerninon, et pour mieux faire connaissance avec l'univers de cet homme, come back en ce jour du 3 mai 2005, lors de la présentation du livre « Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques » et de la performance intitulée « Machine de fuite, moyen d'accès au monde » à Subdeco, Rouen.
Pas mal de gens parmi vous qui sont des habitués du vendredi après-midi d'un séminaire qui s'appelle « L'homme et sa liberté face au commerce et à la consommation » que j'anime à Subdeco Rouen depuis quelques années.
Diversité des cycles, existence du divers dans le cycle lui-même. Bien sûr, le cyclisme nous offre tout cela. 7, 8...
La confrontation du physique, effectivement, et de l'intellectuel, je pense, c'est peut-être le message essentiel que veut faire passer Yann à travers ce texte qui s'appelle « Machine de fuite, moyen d'accès au monde ». Donc le titre le veut bien et « Mise en scène ».
Le programme de ce soir, c'est une présentation, une sorte de mini-conférence autour du livre, qui est une tentative de présentation d'un livre qui est assez important. On parle de beaucoup de choses, donc j'ai fait un tri, je vais essayer, disons, de vous donner le goût de le lire et d'en discuter un petit peu. Et ensuite, Philippe Boinard et moi-même, nous vous présenterons une vidéo-performance qui est inspirée d'un texte que j'ai écrit qui s'appelait « Machine de fuite, moyen d'accès », qui fait écho d'ailleurs au livre que je sors qui s'appelle « Moyen d'accès au monde ». Et que Philippe, en s'inspirant de ce texte, a réalisé une vidéo et un mix son.
Diversité des cycles, existence du divers dans le cycle lui-même.
Vue de l'intérieur, Yann Kerninon, moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques, c'est parti, ready, go!
Oh, on n'y voit rien là.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Vue de l'intérieur. Une émission qui écoute les images parlées, vue de l'intérieur. Un magazine proposé par Sébastien Lecordier et Benjamin Lucas.
Yann Kerninon, bonjour. Nous aussi, j'espère qu'après la fin de cette émission, on va vous donner envie et le goût de lire ce livre, « Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques ». Ça va bien ?
Ça va, bonjour Sébastien.
Je dis ça va bien parce qu'on s'était déjà vu, enfin, on avait travaillé ensemble au mois de février à propos d'un écrit que tu avais fait, qui était paru dans Libération et qui était à la suite de la mort du professeur Choron. Merde à tout le monde et merde à la vie aussi. Alors nous, on s'était bien amusé quand on avait fait ce billet d'humeur, on l'avait préparé. J'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui aussi, mais il n'y a pas de raison, après tout.
On ne se quitte plus et on s'amuse toujours.
Aujourd'hui, donc, on te reçoit pour... Je dis tu, allez.
Oui, parce qu'on se connaît quand même et
Allez, on est fou.
Oui, oui, on se connaît.
Donc, pour la réception de ton livre Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques. Alors, comment décrire ce livre? Est-ce qu'il s'agit d'un essai philosophique, d'une fiction autobiographique, puisqu'il y a l'emploi du pronom personnel « je », ou plutôt d'une tentative d'habiter peut-être notre environnement technique, technologique, d'aujourd'hui en le soumettant à une écriture poétique?
Alors, la question est très vaste et... Pour l'anecdote, il y a une amie qui me disait qu'elle avait cherché ce livre chez un libraire et elle l'avait trouvé. Et le libraire, ils avaient discuté un petit peu du livre et le libraire lui disait « mais je ne sais pas où le classer ». Et moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant parce que effectivement, le livre est un essai philosophique, mais en même temps, ça n'est pas de la philosophie pour philosophe. C'est un essai poétique parce qu'il y a un travail sur le style, le rythme et la musicalité des phrases. Et en même temps, ça n'est pas du tout un recueil de poésie. C'est un texte qui parle du dandy, mais qui n'est pas du tout un livre sur le dandysme. Il y a des éléments autobiographiques, mais c'est pas du tout une autofiction. Ce n'est pas du tout le propos. Je dirais que j'essaye de faire une synthèse, justement, entre un propos philosophique qui aurait des passerelles vers une musicalité, un travail littéraire, d'écriture. Et en même temps, et ça me semble assez important, j'essaye de m'engager personnellement dans mes écrits parce que il y a beaucoup de philosophes, de penseurs, d'essayistes qui ont tendance à écrire l'inverse de ce qu'ils font. J'essaye de m'engager personnellement dans mon écriture. Pour nourrir l'écriture et puis pour un souci aussi, évidemment, de faisabilité de ce que j'écris. J'essaie d'être la preuve de ce que j'écris.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'un constat quand même? Est-ce qu'il y a un constat de notre monde, de ta part?
Alors, oui, il y a
Est-ce que c'est un constat aussi pessimiste, optimiste? Parce que moi, je me demande comment entrer dans ce livre. Est-ce qu'il faut y entrer par moyen d'accès au monde, par ce titre, peut-être sa face optimiste, ou alors par sa face pessimiste, manuel de survie pour les temps désertiques?
Les deux faces, évidemment, se répondent. Il y a une sorte de double point de départ à ce livre. Le premier point de départ, c'est une phrase de Nietzsche qui est relativement connue, qui est donc « le désert croît ».
Allez, disons-le, c'est quoi la phrase ?
Le désert croît, malheur à ceux qui protègent le désert. C'est une phrase de Nietzsche qui revient comme une ritournelle à plusieurs endroits dans l'œuvre de Nietzsche, en particulier dans le prologue de Zarathoustra. Et donc le point de départ, c'est cette idée de désert. Et le désert, c'est pas du tout un lieu vide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un lieu, au contraire, très plein, rempli de choses, mais qui sont des choses éminemment techniques, théoriques, des explications de la vie. Et le propos de Nietzsche, si on veut résumer, mon propos que je reprends là dans le livre et l'idée de Nietzsche, qui est reprise d'ailleurs par Heidegger dans certains textes, c'est l'idée de dire que la société dans laquelle nous vivons consacre une énergie phénoménale à expliquer, analyser, théoriser la vie et techniciser la vie, et que du coup, cette surabondance de techniques et de théories fait disparaître la vie elle-même, c'est-à-dire que à force de vouloir expliquer la vie elle-même s'échappe et s'assèche. Et le désert, c'est ça. Le désert, c'est un lieu où la vie n'est plus possible, non pas parce qu'il n'y a rien, mais au contraire parce qu'il y a des quantités astronomiques de sable et de soleil.
Donc les temps désertiques, c'est ça, c'est en fait ce trop-plein. C'est pour ça qu'à un moment, tu dis « trouer le désert ».
Oui, alors le deuxième point de départ après la notion de désert, c'est la figure du dandy. Alors encore une fois, ce n'est pas du tout un essai sur le dandysme, parce que en plus le dandysme est un peu à la mode et on en dit...
On va y revenir
ouais,
après un peu
on,
sur
On
sur
en
le
dit beaucoup de bêtises, mais je reprends la figure du dandy en disant que c'est un des premiers personnages au XIXe siècle, avant toutes les avant-gardes du XXe siècle, qui dit « je vis dans une société éminemment désenchantée et désertique, et au lieu d'essayer de trouver une nouvelle théorie pour répondre à ce désert, il va simplement s'interroger sur sa propre attitude et son propre rapport au monde ». Et je ne fais pas un éloge sautillant du dandysme comme une espèce de théorie de rédemption, mais je reprends cette figure du dandy en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un ou deux siècles après cette figure, en reprenant les armes du dandy et en les réactualisant en quelque sorte.
À qui s'adresse ce livre? Parce que quand même, est-ce que tu as conscience que tu emploies des gros mots? Il y a des mots de plus de 3 ou 4 syllabes. C'est quand même, ça se fait plus, hein, c'est pas possible ça, d'écrire comme ça. Quand même.
Alors,
qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le livre s'adresse à tout le monde et j'essaie d'échapper à cet a priori qui est assez dévastateur effectivement en ce moment. On considère que les gens ou le public les lecteurs, qui sont un peu fantasmés, je crois, sont incapables de lire des livres où il y a effectivement une recherche littéraire, où il y a une recherche intellectuelle. Mon expérience ne cesse de me montrer que c'est une vision totalement fausse. J'ai des gens qui sont des lettrés et des intellectuels qui ne comprennent strictement rien à ce que je raconte, et au contraire, des gens parfois...
Pardon ? Je comprends pas trop.
Oui, voilà.
Je suis pas lettré, moi.
La preuve, tu ne comprends rien. Et au contraire, des gens parfois... qu'on serait tenté de qualifier de modeste, des gens qui ne sont pas habitués à lire de la philosophie, qui me disent bah tiens là j'ai lu ce texte et c'est pas du tout le passage le plus anecdotique ou le plus drôle, c'est parfois des passages très grinçants qui utilisent des notions parfois assez précises et assez philosophiques, et ils ont été touchés par ça.
Alors j'ai la preuve de ce que tu avances, je vais même te faire travailler, je vais te faire lire, c'est le premier, c'est quoi en fait d'ailleurs que je te fais lire là?
Alors ça, c'est le tout début du livre, c'est la première page du livre où il y a effectivement quelques mots qui sont volontairement un petit peu chantournés, un petit peu recherchés, mais en même temps...
Avec un certain lyrisme.
Oui, il y a un certain lyrisme un peu grinçant, je vais le lire, c'est peut-être le plus simple. La fin du monde n'est pas pour demain. Elle a eu lieu hier, mais nous restons en vie. Sur une place publique, un cortège ou une mascarade, ça et là, des estrades où des gnomes diaprés se grisent de propos hystériques. Des hommes, des animaux, des carcasses décharnées et beaucoup de machines. Des bourgeois sardoniques concèdent quelques pièces d'or à des pestiférés. Ici on vend, on achète, tout est faux, on se suicide. Des hommes aux traits tirés, au teint plombé, errent et s'échangent des masques aux figures sérieuses et enluminées. De ces masques, espèrent-ils quelque chose? Sans doute un nouveau moyen de tricher. Des incubes font devenir des femmes folles, des médicastres bancroches s'affairent à les rassérénés. Deux clowns désemparés s'enfuient à toutes larmes, telle est la figure sombre, telle est la face du monde, la sale gueule d'une époque dévastée, notre époque.
Bon, est-ce que tu as conscience avec ça quand même qu'on va te taxer de lyrisme et presque de romantisme? Attention, il y en a peut-être un peu dans les cheveux encore là.
Je m'en fous.
Totalement.
Totalement, oui, oui.
En tout cas, c'est on rentre fort dans le livre avec ça. C'est, allez, je vais dire là aussi des grands mots. On dirait presque un tableau de Bosch, une description d'un tableau de Bosch ou de Goya avec une écriture presque célinienne.
Oui, alors, au-delà des références, oui, il y a l'idée évidemment de partir d'un portrait. Un portrait volontairement grinçant avec des espèces de monstres. Moi, j'ai pensé au Nosferatu de Murnau. Quand j'ai écrit les premières pages, il y a une scène comme ça où on voit Nosferatu qui erre dans une place publique où il y a effectivement beaucoup de pestiférés, les rats sont en train d'envahir la place, tout a l'air un peu désenchanté, et en même temps cette place est extrêmement remplie. Il y a des cadavres, il y a des gens agonisants, il y a des caisses éventrées, il y a des centaines et des centaines de rats.
Tu prends du plaisir là, on sent là. Il y a des centaines de rats, il y a des cadavres.
Oui, mais il y a un côté un peu apocalyptique, évidemment. Bon, la notion d'apocalypse, elle devrait être approfondie parce qu'elle n'est pas si simple que ça, mais cette espèce de délabrement dans le remplissement à n'en plus finir. Mais, ouais.
En tout cas, il y a ce constat qui est là, le premier paragraphe, enfin, le premier tableau, parce que c'est pas un paragraphe, se pose tout comme ça, et puis après, finalement, l'écriture commence. Commence à s'enlever un petit peu du constat pour partir vers le côté plus subjectif, plus personnel. Et finalement, là, l'écriture commence à s'alléger un petit peu. Et à la fin du premier tableau, donc, ça donne ça. Là encore, je vais te faire travailler sur le dernier petit texte.
Oui,
de la
c'est
fin
la dernière phrase du premier chapitre introductif où je dis « J'écris des interstices avec les bruissements entre les grains de sable du désert de l'époque. En vérité, j'écris d'un autre monde. » Qui mûrit sa naissance, peut-être.
Peut-être. Voilà la musicalité dont on parlait tout à l'heure. Alors en parlant de musicalité, forcément musique, on a évoqué le dandisme, le dandy. Je vais te faire écouter, et vous faire écouter, Anstons and the Nobauten, c'est un groupe allemand. Le morceau s'appelle Der Tod ist ein Dandy, donc la mort est un dandy. Peut-être est-ce que c'est grotesque, on ne sait pas. Anstons and the Nobauten, der Tod ist ein Dandy.
Sujet even slayer. Kein Klepper, keine Meere. Wir Springer im Spiel des Spielers. Der Tod ist ein Dandy.
Vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez cru? Vous croyez que ce livre, en fait, on n'allait parler que d'Apocalypse? Mais non, ce n'est pas vrai, parce que c'est quand même un livre joyeux. Et l'homme qui est avec moi aujourd'hui est joyeux. D'ailleurs, c'est tout aussi sa manière de vivre. Le rire est là, il est présent. Le monsieur en question, bien sûr, c'est Yann Carninon pour son livre « Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques ». C'est quand même un archive, là, une archive qu'on a décoté. C'est un morceau qui date de 88 pour la première campagne de Jacques Chirac au présidentiel. Merci à Frédéric des Oberland. Le dandy, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure avec toi, Yann. Ça représente quoi, en fait, le dandy? Est-ce que c'est pas un petit peu une figure obsolète? Pourquoi réutiliser ou réactiver, je sais pas, ou la figure du dandy?
Pour y répondre, j'aimerais rebondir peut-être sur le morceau, alors pas votons Jacques Chirac, qui est un chef-d'œuvre de la campagne de 88, effectivement.
Chef-d'œuvre pop.
Que je connaissais, ouais, qui est super. Mais sur Der Tod ist ein Dandy, l'idée que la mort est un dandy, le propos de mon livre, c'est au contraire de dire que, évidemment, le dandy.
Les pompiers arrivent, on entend.
Le dandy a un caractère un peu mortifère, mais en même temps, sa quête. C'est désespérément d'essayer de préserver quelque chose d'essentiel dans la vie. Et c'est d'essayer d'être finalement à la hauteur de la vie ou digne de la vie. L'obsession du dandy pour l'élégance, le bon mot, la musicalité, l'esthétique, c'est pour lui, c'est sa manière à lui d'être exigeant par rapport à sa propre vie. Au lieu de concéder au désert, justement, de s'intégrer, d'avoir un travail, d'être bien rangé.
Ils arrivent.
D'être bien discipliné.
C'est l'apocalypse, voilà.
On entend les pompiers, oui. D'être bien rangé, employé, d'être réduit à une fonction sociale, d'être réduit à un caractère, de s'intégrer à des hiérarchies sadiques, par exemple. Je parle de ces différents thèmes. Au lieu de cela, il essaye de préserver une espèce de dignité personnelle. Et au lieu de faire de cette dignité une sorte de théorie, notamment politique, qui pourrait s'appeler, je ne sais pas, le socialisme, le fascisme, le capitalisme, peu importe, à la limite.
Tous les mots en isme.
Les fameux mots en isme. Il est non pas un adepte du dandysme, il est un dandy. Et il travaille à sa propre humanité, à sa propre vie, et il sculpte, en quelque sorte, son propre rapport au monde.
Alors cette figure, elle est présente tout au long du livre, même si c'est pas directement, en tout cas, c'est aller là en filigrane, en fait.
Oui. C'est effectivement un fil directeur, c'est un fil rouge. En revanche, ça n'est pas du tout un ouvrage sur le dandysme. Il y en a eu des centaines et qui souvent d'ailleurs s'éloignent du cœur même de ce qu'est le dandysme. Justement, j'ai fait un petit peu un hors-sujet en prenant la figure du dandy. Je parle de tout à fait autre chose que du dandysme, mais en même temps pour revenir au cœur même de la préoccupation du dandy, qui est justement cette idée d'accéder au monde, c'est-à-dire de retrouver un lien magique, enchanté à quelque chose d'essentiel, au sein même du désert.
Alors ce qui m'a fait beaucoup rire quand même, parce qu'à un moment dans un des tableaux donc de ton livre, c'est le titre « Cénotaphe pour mon dandy ». Donc un cénotaphe, c'est un mausolée, on peut dire ça.
Oui, alors plus précisément, le cénotaphe, c'est un tombeau qui ne contient pas de corps.
Parce que là, il y a toute une mise en scène où en fait tu racontes que tu as voulu te suicider, et là c'est complètement grotesque et pathétique. Et en même temps, c'est très touchant. Et puis, c'est là une manière, justement, de te dire, non, après ça, à quoi ça sert de suicider? Là, je suis allongé chez moi, je vais me suicider à 20 ans. C'est complètement aberrant. Et en même temps, c'est vrai que c'est grotesque, mais c'est touchant. Et du coup, à partir de là, effectivement, tu peux commencer à dénouer, en fait, tous les fils de ton livre et de tous les thèmes que tu vas aborder.
Oui, tout le livre, finalement, ça part effectivement d'une espèce de suicide ou de constat de désenchantement assez radical. Et en même temps, il y a, une fois qu'on arrive à cette espèce de figure désertique, apocalyptique, suicidaire, mortifère, je décide de continuer malgré tout. Et tout le livre consiste à dire pourquoi on continue, en quelque sorte. Qu'est-ce qui reste quand il reste vraiment plus rien? et je travaille là-dessus.
Alors dans cette continuité, il y a la figure de l'idiot qui est très importante. Mmh. Et là, on a parlé donc de aussi une autre figure très importante philosophique, il y a Gilles Deleuze, on a parlé d'Heidegger, de Nietzsche, mmh. et puis il y a les Monty Python. Avec l'idiot, parce que il y a un sketch quand même des Monty Python avec John Cleese.
Oui, j'ai fait un chapitre sur qui s'appelle Enquête d'un devenir inutile, qui essaie d'interroger la notion d'utilité et d'inutilité, et à un moment effectivement je convoque la figure de l'idiot du village. C'est un sketch du Monty Python Flying Circus.
Ah, oui, avec l'accent Monty Python. Okay,
voilà, ouais, ouais, ouais. Et c'est un sketch donc de ces séries de la BBC où on a effectivement un idiot du village qui est extrêmement lucide quant à sa propre idiotie et qui joue finalement ce personnage de l'idiot. Et ça fait écho à un autre humoriste célèbre qui est justement Martin Heidegger, qui n'était pas très drôle d'ailleurs, mais qui utilise un mot assez amusant dans un texte qui est le Quinzig. Le Quinzig, c'est un mot qu'il emprunte
pas de gros mots,
au dialecte...
Encore.
Oui, un gros mot, qui l'emprunte au dialecte swab et qui vient en fait de l'allemand kein Nutzig, c'est le bon à rien. Mais on le traduit par plutôt l'espiègle, quoi. J'aime bien cette figure du gamin un peu farceur, un peu rieur, parce que c'est vrai qu'il est inutile, il ne sert pas vraiment officiellement à quelque chose, il n'a pas vraiment de fonction, et en même temps, c'est la vie même, quoi. Le gamin qui va faire des farces, le gamin qui a une lumière dans l'œil, quoi, qui pétille.
Alors d'ailleurs là j'ai en face de moi j'ai plusieurs Yann Kerninon, je sais pas auquel je m'adresse parce que Yann Kerninon, il est aussi bien écrivain, il enseigne aussi dans différentes écoles, il fait des performances, il fait des enfants, il fait l'amour, il fait du vélo. À qui je m'adresse là aujourd'hui, parce que tu dis aussi dans cette quête du devenir soi, il faut être plusieurs.
Oui, il y a un chapitre qui est consacré à la complexité.
C'est quoi être plusieurs? C'est justement pouvoir, comme tout à l'heure, on te présentait le 3 mai dernier à Sup de Co Rouen, donc où tu enseignes, tu venais présenter ton livre et en même temps tu faisais juste après une performance. Alors tu étais dans une tenue très chic comme aujourd'hui et puis juste après tu commences un petit striptease à la fois physique et émotionnel quand même, parce que c'est pas facile de se mettre à nu comme ça devant ses élèves. Oui. On va les avoir une semaine après et hop là tu enfourches un vélo et puis tu commences à pédaler pendant 18 minutes avec derrière toi un écran vidéo. Mm-hmm.
Mais le principe est assez simple, c'est si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais.
Voilà, c'est tout.
Et voilà, et c'est la règle morale de base, ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais je ressens le besoin d'exprimer certaines choses ou de les expérimenter, c'est pas forcément toujours exprimer, mais d'expérimenter des émotions, des sensations,
finalement de plus dans le ressenti.
Et oui, et je me souviens très bien de la généalogie de la vidéo performance dont tu parles. On s'est rencontré avec Philippe Boinard, on a commencé à parler de cyclisme, je lui ai soumis une idée et puis c'est parti comme ça. Et évidemment si on était dans des schémas,
c'est ce qu'on entend derrière,
oui,
en fait.
Oui, oui, c'est extrait de la performance.
On va entendre aussi Philippe Boinard s'exprimer en fait à propos, donc c'est le philosophe vidéaste,
oui,
avec qui tu as fait la performance.
Oui, oui.
S'il y avait eu que les images, ou c'était un clip, je ne sais pas si ça aurait été très pertinent.
Diversité des cycles, existence du divers dans le cycle lui-même, bien sûr le cyclisme nous offre tout cela. 7, 8, 9, 10 pignons, une chaîne sans fin qui ondule et trépide. 1, 2, trois plateaux, des ressorts, des moyeux, des galets et des câbles en tout sens qui pincent à gauche, à droite.
Qu'est-ce que c'est cette représentation mentale dans laquelle il se situe?
Tourne à contresens, tout le temps.
plus il est dans l'effort, plus bien sûr ça devient abstrait, ça devient, c'est une œuvre abstraite en fin de compte.
Les couleurs fulminent, les odeurs se distinguent.
Sans la fatigue physique, l'effort, la sueur perlée à son front, ce qui renvoie vers le texte, qui est un texte, comme souvent chez Yann, disons une dimension à la fois philosophique et littéraire. Il est dans cette tradition-là. Donc la confrontation du physique, effectivement, et de l'intellectuel, qui, je pense, c'est peut-être le message essentiel que veut faire passer Yann à travers ce texte qui s'appelle « Machine de fuite, moyen d'accès au monde ». Donc le titre le veut bien, est « Mise en scène ».
Alors Yann, dans cette performance où tu pédales et derrière toi, donc il y a un écran vidéo qui reprend des bribes de textes d'un de tes textes que tu as à faire, le manuel de survie. Mm-hmm. Est-ce qu'il s'agit du physique contre l'esprit, comme le dit Sébastien Dubois, qui avait organisé cette performance, ou plutôt comme Philippe Boinard, avec qui j'en avais parlé, donc le vidéaste, oui, performeur, philosophe, plutôt de l'esprit avec le corps?
Oui, j'avais pas l'impression que Sébastien Dubois opposait physique et intellectuel, mais effectivement, le message, mais le mot message, là pour le coup c'est un vrai gros mot. ce qu'essaye de faire passer cette performance, c'est une sorte d'alliance, effectivement, entre l'intellect et le physique. Le propos, c'est de montrer à quel point le fait d'être sur un vélo, d'être dans l'effort, d'être dans le froid, ou dans la chaleur du corps, le froid extérieur, rend possible une rencontre poétique avec le monde.
Alors cette rencontre poétique, on va pouvoir la voir sur place, samedi 11 juin.
Oui.
Ça se passe où?
Alors,
à quelle heure?
Ça
comment,
se passe, il y a au musée d'art naïf Max Fourny, à la Halle Saint-Pierre, donc c'est métro Anvers, samedi après-midi, donc le 11 juin prochain. Après-demain,
dans trois jours.
Il y a toute une après-midi de 15h à 18h qui est animée par les éditions Hermaphrodite et le collectif Hermaphrodite. Et nous présentons cette performance effectivement à 17h, je crois. Il y a toute une après-midi de performance, de lecture et de film. Et nous présentons en fin d'après-midi à 17h la performance Machine de fuite avec Philippe Boinard.
Alors les collections Hermaphrodite, tu travailles aussi pour cette maison d'édition, c'est là où est sorti ton premier livre qui a,
oui,
eu l'ubiquité,
oui,
et le dernier livre, donc le second livre, Moyen d'accès au monde, manuel de survie pour les temps désertiques, c'est sorti aux éditions Le Bord de l'eau, c'est dans toutes les bonnes épiceries, librairies,
oui, c'est diffusé partout.
Yann Carninon, merci beaucoup d'être venu, longue vie à toi, merde à tout le monde et à la vie aussi, merde à Chouron, merde à Carninon. Nous on se retrouve dans 15 jours, d'ici là portez-vous bien, ciao, bye bye.
Merde à toi.
Et merci à Benjamin Bocas pour la technique et à Frédéric Déoberland, notre archiviste. Ciao, et attention gros mot, non allez-y, abusez-en.